Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. La Maison-Blanche a démenti hier soir des informations selon lesquelles le vice-président Mike Pence se serait placé en quarantaine après un cas de coronavirus chez une collaboratrice, sa porte-parole Katie Miller. Elle a été vendredi le deuxième cas confirmé à la présidence américaine après un militaire de la Marine au service du président Donald Trump la veille. Messieurs Pence et Trump sont testés chaque jour. Pour leur part, trois membres clés de l'équipe présidentielle de lutte contre le coronavirus, dont l'épidémiologiste Anthony Fauci, vont rester en isolement après de possibles expositions au virus selon les médias américains. Les États-Unis ont enregistré 776 décès dus au coronavirus en 24 heures, le chiffre le plus bas depuis mars, ce qui porte le total à 79 522 selon le comptage de l'Université Johns Hopkins. Depuis plusieurs semaines, le bilan quotidien oscillait entre 1 et 2500 morts. Il y a 1 329 072 cas détectés dans le pays le plus touché par la pandémie. En Europe, à la différence de nombre de ses voisins qui allègent sensiblement leur dispositif, le Royaume-Uni va prolonger son confinement, tandis que la peur d'un rebond de la pandémie envahit la planète, des foyers en train de ressurgir, notamment à Séoul en Corée du Sud et à Wuhan en Chine. Éprouvant de la joie, mais aussi de l'appréhension, la France et une partie de l'Espagne vivaient en revanche dimanche leur dernier jour de confinement. Il y a plus de 4 millions de cas dans le monde, dont plus de 280 000 morts dans 195 pays et territoires. Au Tchad, toute personne qui ne respecte pas le port du masque sera punie d'une amende de 2 000 francs CFA et pourra l'être en outre de l'emprisonnement jusqu'à 15 jours au plus, selon un arrêté hier du ministre de la Défense et de la Sécurité. Le Tchad comptait officiellement dimanche 322 cas, dont 31 décès. Par ailleurs, à l'instar d'autres pays africains, le Tchad a annoncé dimanche avoir reçu de Madagascar un don de 600 doses de Covid organique, un breuvage présenté par le président malgache comme un traitement efficace contre le coronavirus, mais que l'OMS déconseille dans l'attente d'une étude scientifique fiable. Dans le reste de l'actualité, trois soldats tchadiens de la mission des Nations Unies au Mali ont été tués dimanche et quatre grièvement blessés quand leurs véhicules ont sauté sur une mine à Agalop dans le nord du pays, a annoncé l'ONU. En Libye, des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli, tuant au moins quatre civils et endommageant sérieusement l'aéroport de la capitale, où le gouvernement d'Union nationale a imputé les tirs aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. Un navire de guerre iranien a été accidentellement frappé par un missile lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman, faisant un mort et des blessés, a rapporté lundi la télévision d'État iranienne. En Afghanistan, quatre explosions successives de mines ont secoué ce matin le nord de Kaboul, la capitale afghane, et blessé quatre civils selon la police. Un tremblement de terre a été ressenti ce matin à Rome sans provoquer de dégâts selon les premières constatations du secours. Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice de Géorgie a demandé une enquête fédérale sur la manière dont a été traitée l'affaire du meurtre d'un jogger noir survenu en février dans cet État du Sud. Ahmad Arbery, 25 ans, a été abattu le 23 février dernier alors qu'il faisait un jogging dans un quartier résidentiel de Brunswick, une ville de Géorgie. Le Monde aujourd'hui. La suite de nos informations. Au Niger, 20 personnes ont été tuées ce week-end par des hommes armés non identifiés dans leur commune d'Anzourou, région de Tillabéri. Une région sous état d'urgence depuis des années du fait des attaques des groupes djihadistes du nord du Mali. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon le gouverneur de la région de Tillabéri, Ibrahim Tijani Kachala, c'est aux environs de 16h30 temps universel ce samedi que des hommes armés venus à moto se sont pris aux populations de trois villages de la commune d'Anzourou, pas loin de la frontière malienne.
Ils ont tué 20 personnes. Gadabo, il y a 7 morts. Zivane, 3 morts. Et Zivane, 10 morts. Et ils ont pillé les boutiques et convoyé les animaux. Donc, une poursuite a été engagée par les forces de défense et de sécurité. Nous avons rassuré la population également que l'État prendra toutes les dispositions pour les sécuriser et sécuriser leurs biens.
Toujours ce samedi, et cette fois-ci de l'autre côté de la frontière nigériane, des assaillants ont attaqué la position militaire nigérienne située sur le pont d'Outi qui sépare Difa des localités du Nigeria. Aucune source officielle n'a cependant pas confirmé cette attaque qui serait alors la deuxième en moins d'une semaine. Le dimanche 3 mai dernier, en effet, le même poste militaire a été visé par des présumés éléments de Boko Haram. Celle-ci avait fait 2 morts parmi les militaires nigériens, selon le gouvernement. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso, c'est Eddy Komboigo qui sera le candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré à la prochaine présidentielle qui est prévue en octobre. Il a été élu lors d'un congrès du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ce week-end à Ouagadougou. D'où notre correspondant Lamine Traoré nous parle.
Eddy Komboigo portera les espoirs du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Des primaires qui se sont tenues samedi et dimanche, il n'y a pas eu de consensus. Le collège de désignation des candidats a donc procédé au vote. Et à l'issue, Eddy Komboigo a enregistré 133 voix contre 21 pour son challenger, le député Yahya Zungrana. Le troisième candidat à cette candidature du parti, Mamadi Kouanda, a lui été déclassé pour dossier incomplet. Le CDP est donc cette fois-ci dans la course, après l'échéance ratée de 2015. À l'époque, une loi controversée votée par le Parlement de transition interdisait aux pro-Compaoré de briguer notamment la présidentielle. La candidature de Eddy Komboigo pour l'élection de novembre prochain devra être validée par Blaise Compaoré, président d'honneur du parti, conformément au texte du parti. Ce dernier a fui en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est toujours prévue pour fin octobre. Malgré l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, assurant par ailleurs que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly se portait bien, Nathalie Barge.
Le gouvernement travaille à rendre cette élection réalisable en octobre 2020. C'est la perspective, a déclaré Sidi Touré, rappelant que ce sera à la commission électorale de donner en temps opportun le calendrier opérationnel. L'épidémie de coronavirus pourrait retarder les opérations de renouvellement des cartes d'identité et d'enrôlement sur les listes électorales. Sidi Touré a par ailleurs assuré que le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle et actuellement en France pour raisons médicales, se portait bien et serait de retour prochainement. Monsieur Gon Coulibaly a subi une opération du cœur il y a plusieurs années. Il avait quitté Abidjan pour rejoindre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris le 2 avril, officiellement pour un contrôle médical.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Mali, le prix Borchon garanti aux producteurs de coton a été fixé à 200 francs CFA par kilo pour la campagne 2020-2021, soit 75 francs CFA de moins que la saison précédente. Cette baisse est principalement liée à la mauvaise situation du marché mondial touché par le Covid-19. Selon le site Commode Africa, cité par l'agence Ecofine, Le gouvernement malien devrait encore reconduire pour la saison 2020-2021 la subvention de 10 milliards de francs CFA accordée aux producteurs de coton sous une forme de bonus de 15 francs CFA par kilo. La Zambie a demandé au FMI une facilité de crédit rapide pour atténuer l'impact du coronavirus. Le pays a également entamé la présélection des conseillers financiers qui l'aideront à réduire son endettement. En avril, le FMI prévoyait que l'économie zambienne se contracterait de 3,5% en 2020 contre 1,5% en 2019 en raison de l'impact du COVID-19 sur l'économie mondiale. L'activité économique du pays a également été entravée par des pénuries d'électricité généralisées. Pour terminer cette minute éco, le taux annuel d'inflation des prix à la consommation en milieu urbain en Égypte est passé à 5,9% en avril contre 5,1% en mars, selon l'Agence officielle des statistiques. Ce taux est supérieur à ce que les analystes attendaient en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
En République centrafricaine, le complexe sportif Barthélémy Boganda de Bangui est privé de compétition internationale.
Oui, c'est suite à une décision de la CAF jugeant l'état de ce stade inapproprié pour accueillir de grands matchs. À Bangui, les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
Selon la Confédération africaine de football, le complexe sportif Barthélémy Boganda ne répond plus aux normes des stades pouvant accueillir de grandes compétitions internationales de seniors masculins. Dans sa note adressée à la Fédération centrafricaine de football le 30 avril dernier, l'institution continentale de football a affirmé, je cite, « Nous avons le regret de vous informer que le stade actuel ne répond pas aux exigences minimales de la CAF et ne sera pas disponible pour les compétitions interclubs seniors et ou équipes nationales masculines. » Fin de citation. La CAF a en effet déploré la dégradation de l'aire de jeu, des vestiaires, la non-conformité des gradins. Bref, tout est presque à refaire ou à améliorer. Elle donne cependant un délai de 3 mois évoquant une mission de visite d'inspection de suivi entre le 30 juin et le 30 juillet 2020. La nouvelle n'a pas surpris bon nombre d'amoureux de football centrafricain car ces derniers n'ont cessé de dénoncer l'état de dégradation de ce complexe sportif de 20 000 places. Pour le moment, ni la Fédération centrafricaine de football, ni les autorités politiques n'ont encore officiellement réagi à ce coup dur, alors que le pays doit encore recevoir des rencontres de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La Fédération béninoise de football s'est réunie hier afin de trouver une solution pour la reprise de son championnat.
Et au terme de cette réunion, il a été décidé d'attendre jusqu'au 15 juin prochain pour prendre une décision finale. Si à cette date, la situation sanitaire ne s'améliore pas au Bénin, la saison sera invalidée sans champion ni relégué. Il faut rappeler que la CAF avait demandé aux différentes fédérations de lui fournir les dates et les scénarios envisagés pour mener à terme le championnat. Ceci permettra à l'essence qui gère le foot africain de programmer les compétitions des clubs et préparer le calendrier de la prochaine saison.
Du côté de la Tunisie, la fédération a annoncé dans un communiqué de presse que le championnat reprendra au mois d'août.
L'instance fédérale a indiqué que cette décision devrait d'abord être validée par les autorités tunisiennes. Elle a aussi expliqué qu'un retour aux entraînements se fera après le 18 mai prochain. Concernant le prochain exercice sportif, la fédération a annoncé qu'elle débutera le 24 octobre 2020 et que les matchs de coupe seront programmés en fonction du calendrier du championnat.
Au Maroc, après avoir décidé de se plier aux décisions des autorités pour la reprise du championnat, la Fédération royale a décidé de prolonger la durée de son mercato estival.
Exactement Idrissa, ceci pour une durée de 3 mois supplémentaires, suivant ainsi les directives émises par la FIFA. La Fédération royale va donc donner du temps aux clubs marocains afin de leur permettre de gérer au mieux leurs relations contractuelles avec leurs joueurs en fin de contrat.
Judo pour terminer, le championnat d'Afrique hommes et dames est reporté.
Oui, cette compétition n'aura pas lieu à la date initialement fixée par l'Union africaine de judo. Elle a été décalée en raison de la pandémie du Covid-19 et reprogrammée du 28 novembre au 1er décembre prochain, toujours au Maroc. À noter que ce championnat est qualificatif pour les prochains Jeux olympiques. D'autres tournois aussi ont été reportés. Il s'agit du tournoi de Yaoundé au Cameroun qui était programmé les 7 et 8 novembre et celui de Dakar au Sénégal les 14 et 15 du même mois.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Inquiétude de l'Union des journalistes du Nigeria face au nombre de cas de Covid-19 parmi les journalistes. Le Nigeria a enregistré ce week-end 4151 cas du Covid-19 et 128 morts. Le nombre de journalistes ayant contracté la maladie est en augmentation. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Les journalistes sont exposés dans cette période de propagation du Covid-19 au Nigeria. Considérés comme des agents de première ligne dans la lutte contre la pandémie, leur travail les expose au danger d'être infectés. C'est une préoccupation majeure de l'Union des journalistes du Nigeria. Chris Iziguzo est son président. Nous avons un certain nombre de nos collègues testés positifs. Nous avions même perdu un journaliste qui travaillait pour le journal Le Guardian à Sokoto. Nous avons un journaliste testé positif toujours à Sokoto. Il est présentement mis en quarantaine. Un autre qui travaille avec le journal The Daily Trust est testé positif à Adamawa. Nous avons encore un autre journaliste qui travaille à la radio nationale NTA, testé positif à Katsina. Au total, 4 journalistes ont été infectés au Covid-19 et 1 a trouvé la mort. Les journalistes au Nigeria font face à des défis à relever qui rendent leur travail difficile et parfois dangereux bien avant le déclenchement de la pandémie du Covid-19. Pour Hedlina Omolola Oladimeji, journaliste, les difficultés en cette période du Covid-19 pour les journalistes sont énormes. C'est très difficile en tant que journaliste de s'arranger pour faire son travail, considérant les risques impliqués. Premièrement, le gouvernement prévoit des équipements de protection et autres pour les agents de santé. Rien n'est prévu pour les médias. Donc souvent, il faut chercher ton masque et tout ce que tu as besoin pour éviter d'être infecté au Covid-19.
COVID-19.
La crise sanitaire vient donc s'ajouter aux énormes difficultés de travail des journalistes au Nigeria, car certaines organisations de médias ont commencé à diminuer les salaires en raison de la situation économique actuelle. La réaction du président de l'Union des journalistes au Nigeria, Chris Iziguzo.
The issue of payment of salaries.
Le problème de paiement de salaire, la plupart de nos collègues qui travaillent avec les institutions de médias privés, notamment la radio, la télévision et les journaux, n'ont pas été payés depuis des mois. Et cela constitue un autre défi. Au cours des 2 dernières années, plusieurs journalistes ont été agressés, arrêtés et menacés pour avoir simplement effectué leur travail. Les journalistes qui ont dénoncé la corruption ont signalé des problèmes nationaux sensibles tels que la sécurité et les violations des droits de l'homme n'ont pas été épargnés. Les observateurs pensent que le rôle des médias en cette période de pandémie de coronavirus dans le pays le plus peuplé d'Afrique est important en informant et éduquant le public. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Mali, l'heure est au déconfinement comme dans plusieurs autres pays. Le couvre-feu a été levé samedi et les écoles rouvriront le 2 juin. C'est la décision prise samedi par le Conseil de défense malien réuni autour du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais le port du masque sera rendu obligatoire dans les lieux publics. C'est dans ce sens que le président Ibeka a annoncé la mise à disposition de 10 millions de masques. De Bamako, Kassim Traoré.
Samedi, le Premier ministre Boubou Cissé est à Paris à la télévision nationale pour annoncer ses nouvelles mesures prises à l'issue du Conseil de défense.
Après une évaluation rigoureuse du chemin parcouru et un examen minutieux des corrections à apporter, autant que des mesures à renforcer, le Conseil national de défense du vendredi 8 mai 2020 a-t-il préconisé, premièrement, le port obligatoire du masque dans les espaces publics. Deuxièmement, la prorogation jusqu'au 2 juin prochain de la fermeture des écoles primaires, secondaires et supérieures. Troisièmement, la levée du couvre-feu sur l'étendue du territoire national.
Ces dernières semaines, à travers le pays, des jeunes ont organisé des manifestations contre le couvre-feu. Dans plusieurs villes comme Kaï, ces manifestations ont souvent été émaillées de violences. En plus des contestations du couvre-feu, les activités socio-économiques étaient au ralenti. Yacouba Katilé est le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM.
Avec l'action du couvre-feu, il y a des sociétés où les gens travaillent 24 heures sur 24. À une certaine heure, vous ne pouvez plus sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Certainement, l'entreprise va s'arrêter. Ou en tout cas, ça va travailler à un rythme en tout cas moindre. Les conséquences, c'est que la production aussi va baisser. Des réflexions devaient être menées avec les responsables, les travailleurs sur ces questions pour voir ce qui avait lieu de faire, mais rien n'a été décidé.
Dans les rues, cette levée de couvre-feu n'est pas bien accueillie par certains Maliens. Aboubacar Diarra, mécanicien.
Premièrement, le Premier ministre a dit sur les antennes que la pandémie est en train de galoper. De ce point-là, on ne devrait pas lever ce couvre-feu-là. Et deuxièmement, nous sommes dans le mois de carême. Dans le mois de carême, pour respecter ces interdits et autres là, il fallait garder le cap jusqu'à la fin du mois de carême. Après faire la levée de coupe, surtout dès l'annonce, vous voyez, toutes les rues sont bondées de jeunes gens, c'était pas une bonne chose.
Pour l'activiste Cheikh Oumar Tunkara, le gouvernement ne pouvait pas ne pas lever le couvre-feu.
La levée du couvre-feu, ça va permettre à beaucoup d'opérateurs économiques qui évoluent la nuit, donc de reprendre leurs activités. Point de vue santé, c'était obligatoire de maintenir ce couvre-feu là, mais aujourd'hui on se rend compte que ça fait beaucoup de misérables également. Parce que les gens qui vivent au jour le jour, ils sortent le soir, ils vont travailler, les boulangers et autres là, donc leurs activités étaient carrément réduites à néant. Les bars, les restaurants, donc c'est un manque à gagner.
Dans son allocution, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures contre le coronavirus.
L'expérience de pays asiatiques qui ont su dompter le Covid-19 montre à suffisance que le meilleur confinement, c'est le masque. Que la meilleure prévention, c'est le masque. Pour les instructions du président de la République, le gouvernement redoublera d'efforts afin de tester toutes les personnes contacts identifiées et de les prendre en charge au besoin. Nos moyens sont justes parce qu'ils sont ceux d'un pays en guerre contre l'insécurité et le sous-développement. Mais nous tenons à élargir nos capacités et nos compétences pour mieux relever les défis induits par le Covid. Nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup mieux et nous le ferons.
Ce dimanche, le Mali comptait 672 cas de Covid-19. Aujourd'hui, d'autres décisions seront prises concernant les bars, les lieux de loisirs et les salles de spectacle. Les frontières du pays, elle reste fermée. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, les mouvements citoyens, les artistes et d'autres groupes de la société civile apportent leur soutien au gouvernement congolais dans la sensibilisation sur les gestes de prévention du Covid-19 et la distribution gratuite des masques. Les artistes mènent aussi la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Avant même la déclaration du premier cas du Covid-19 en RDC, plusieurs plateformes s'étaient déjà lancées dans la sensibilisation, surtout à travers les réseaux sociaux. L'une de ces plateformes est Goma Actif, un groupe composé de jeunes entrepreneurs, humanitaires, de journalistes ainsi que des sportifs. Arsène Tungali est entrepreneur à Goma et cofondateur de cette plateforme.
Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent même pas de l'existence du corona. Où les gens disaient à l'époque que non, les noirs ne peuvent pas être atteints du corona, ou les jeunes ne peuvent pas être atteints du corona, c'est seulement les vieux ou c'est seulement les blancs. On s'était dit donc qu'il y a toutes ces idées-là qu'il nous faut d'abord briser pour nous rassurer que tout le monde devient conscient. Nous nous sommes dit passons à l'action et allons aider pratiquement. Non seulement on a placé les points de lavage d'eau, mais on s'est mis aussi avec des mégaphones pour dire aux gens pourquoi est-ce qu'ils devraient se laver les mains. On a ciblé 3 principaux points dans la ville en train de distribuer des masques. Et donc, on donnait aux chauffeurs et on l'encourageait, pas l'obligeait, mais on l'encourageait à porter immédiatement là-bas.
Les femmes restent les plus vulnérables dans les contextes de la vie quotidienne en RDC, selon Passi Mubalama, activiste des droits des femmes et voix à Goma. Elle oriente ses efforts de sensibilisation vers les femmes qui passent le plus de leur temps dans le petit marché de Goma, touché par la fermeture de la frontière entre la RDC et le Rwanda.
On a été par exemple dans les marchés parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Le gouvernement a espacé le nombre de jours pour les commerçants de venir. Mais malheureusement, ce sont ces jours-là que toute la population aussi vient dans le marché pour acheter. Et il y a beaucoup, beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de gens et le risque de contamination augmente aussi avec tout ça.
De l'autre côté, les artistes publient des messages sur les réseaux sociaux, notamment des vidéos. Jean-Claude Kibombo, dit professeur, son nom de scène, a voulu aussi mettre en contribution son influence en tant que leader d'opinion pour sensibiliser la masse à travers la musique. Il vient d'enregistrer d'ailleurs une chanson pour la sensibilisation. J.C. Kibombo.
Selon mon domaine, je suis leader de la place ici. Quand je joue des concerts jusqu'à Béni, là où il y avait Ebola, nous sommes vraiment sensibles pour servir d'intermédiaires afin de sensibiliser aussi la population, commencer à interpeller les gens, leur montrer comment ils doivent prendre soin d'eux, ils doivent se prendre en charge, que chacun reste chez soi.
En RDC, l'épicentre de l'épidémie reste à Kinshasa, la capitale, qui compte à elle seule les 938 cas sur les 991 que compte le pays. Les autres provinces, elles restent moins touchées par le Covid-19. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, les affaires en justice de Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion, divisent les opinions. À Boaké, ancien quartier général des Forces Nouvelles, le cas Soro fait débat. Certains de ses partisans osent dénoncer ce qu'ils appellent une justice manipulée par la main du politique. De Boaké, correspondance de Cyril Kibaro.
Si Guillaume Soro a été condamné par la justice ivoirienne, c'est bien parce qu'elle détient contre lui des preuves en rapport avec les faits de recel de deniers publics. C'est ce que pense Dosso Mori, étudiant en sociologie à l'université Alassane Ouattara.
C'est une aubaine pour le peuple ivoirien de véritablement savoir à quoi sert les budgets qui sont alloués aux différentes institutions. Ben, ce qu'on peut se poser comme question, c'est de voir est-ce que les faits sont avérés, les faits de recel. Si les faits sont avérés, c'est tout à fait normal que la justice ivoirienne ait rendu une décision.
Il y a quelques jours, une autre plainte le visant a été déposée en France pour des faits qui remontent à 2004. Il est accusé d'assassinat, de torture et de crimes de guerre. Toujours, selon notre étudiant, cette plainte permettra de faire la lumière sur les crimes perpétrés lors de la rébellion ivoirienne.
Ça permettra aux citoyens ivoiriens de savoir ce qui s'est réellement passé au cours de la rébellion, les crimes qui ont été commis à Boaké.
Cet avis n'est pas du tout partagé par les partisans de Guillaume Soro. Ils y voient plutôt une volonté du pouvoir actuel d'écarter un concurrent sérieux de la course aux futures échéances électorales prévues en octobre prochain. Diallo Mokhtar est le délégué départemental du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, une formation politique proche de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Pour lui, qui a connu la prison lors de l'affaire Jacques Mangwa, il estime que le président du parti Génération et Peuple Solidaire est victime d'une cabale politique.
C'est un débat politique, hein, ce n'est pas juridique. Moi-même, Mokhtar Diallo, que vous parlez, j'ai été prisonnier politique par rapport à l'affaire Mangwa-Jacques. J'ai été simplement pour un sitting, même pas un meeting. Mais on m'a arrêté.
L'organisation d'élections libres et inclusives est, selon lui, la seule alternative qui reste au chef de l'État, Alassane Ouattara.
J'ai dit aujourd'hui au président Ouattara, s'il veut sortir grand, libérer les prisonniers politiques, organiser des élections libres, transparentes, ouvertes à tous, y compris Soro, Blekoudé et même Gbagbo.
Les charges qui pèsent contre Guillaume Soro ne sont que le résultat de son refus de s'associer au RHDP et à leur gestion actuelle du pouvoir. C'est la position de Doumia Prince, membre de l'Union de la jeunesse soroïste de Côte d'Ivoire.
Le président Guillaume Soro n'est pas opposé à la justice ivoirienne.
est opposé à la politique et à la gestion du président Ouattara et ses hommes.
Il accuse également la justice ivoirienne d'être instrumentalisée.
La justice ivoirienne est carrément devenue une justice ambiguë, une justice à double visage. Il faut que les choses changent.
Guillaume Soro, qui a célébré ses 48 ans le 8 mai dernier, est toujours en exil en France depuis son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre dernier. Siri Kibaro, Boaké pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Edrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOAAfrique.